Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les banlieues, en Midi-Pyrénées comme ailleurs, on a coutume de penser qu'il ne fait pas bon vivre en banlieue. Après le plan Marshall des banlieues promis par Nicolas Sarkozy, le gouvernement actuel vient de lancer un plan égalité et citoyenneté. Bref, les plans se succèdent et vu de loin, on a l'impression que c'est sans grand résultat. Au milieu d'un sentiment de découragement, des initiatives remarquables comme les écoles Espérance Banlieue, des écoles d'un nouveau genre qui connaissent un véritable succès. Voilà, ce matin, donc, cette émission, les banlieues et leurs nouvelles écoles. Il y a du monde au téléphone et autour du plateau. Nous commençons avec le père Jean-Marie Petitclerc. Vous êtes avec nous par téléphone depuis Lyon, si je ne me trompe pas. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous présente rapidement, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Vous êtes polytechnicien et vous êtes surtout connu pour être le fondateur du Valdoco. Vous êtes une des figures, on va dire, des chrétiens engagés en banlieue. Et vous avez entre autres été chargé de mission au cabinet de Christine Boutin en 2007, lorsqu'elle était ministre du Logement et de la Ville. Un peu plus tard dans l'émission, nous rejoindra Albéric de Seran, lui en direct de Paris, auteur d'un ouvrage « Je veux faire battre le cœur de l'école » et l'un des, on va dire, des fondateurs ou des premiers à avoir ouvert une école Espérance Banlieue. Et autour de la table, Jean-Louis Bouny, vous êtes président d'Espérance Banlieue Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Arnaud Desbazeilles, vous êtes initiateur de ce projet à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Et Claire Sellerier, vous êtes enseignante et vous êtes membre de ce projet. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer avec vous, père Petitclerc. Je me disais au début de cette émission, payons-nous le luxe d'essayer, je dis bien essayer, de faire un peu un point sur les banlieues. Alors vous me direz, vaste sujet. Qu'est-ce que vous nous diriez, vous qui êtes engagé depuis si longtemps sur ce front, en cette année d'élection présidentielle, qu'est-ce que vous allez essayer de dire ou de répéter? Comment vont les banlieues?
Écoutez, c'est vrai qu'elles ne vont pas très bien. Moi, je dirais que nous avons commis deux grandes erreurs. La première a été, pendant des décennies, de croire que le problème des quartiers venait de l'urbanisme. Donc on a dépensé des centaines de millions d'euros dans de gigantesques opérations urbanistiques, et force était de constater, Manuel Valls faisait le constat, que le problème n'est pas l'urbanisme, mais le peuplement. Alors je n'ai rien contre ces grandes opérations qui ont amélioré la vie des habitants, mais effectivement, le problème est resté le même. Et ensuite, la deuxième erreur que nous avons faite, c'est ce que j'appelle le zonage. C'est-à-dire que toutes les mesures prises ont consisté à financer des actions menées dans les quartiers pour les gens des quartiers. Et que ceci n'a en rien enrayé la spirale de ghettoisation. Aujourd'hui, j'aime dire au maire, moi personnellement, je préfère que vous financiez une ligne de bus entre le quartier et la mairie centrale, plutôt que vous inventiez une mairie annexe au sein du quartier. Mais toute la logique a été de mettre tous les équipements à l'intérieur du quartier. Résultat des courses, donc la population n'a plus à sortir. Et nous avons donc ce phénomène de ghettoisation. Et le ghetto n'est pas que dans les murs, hein, il est un peu dans les têtes. J'aime l'expression de la Péronie en disant qu'un ghetto, c'est à la fois une cage et un cocon. Une cage parce que les gens se sentent un peu exclus des structures ordinaires de la société. Mais aussi un cocon parce qu'ils se sentent bien. Hein. La dernière enquête montrait que les collégiens s'y sentaient bien parce que c'est un endroit où une culture un peu particulière se développe. Mais malheureusement, effectivement, l'insertion ensuite est de plus en plus difficile. Et ce que je récuse aujourd'hui dans la politique menée par le gouvernement, vous savez, la dernière idée de notre ministre était de dire bien, on va aider les jeunes à inventer leurs entreprises dans le quartier. Je me dis, le prochain va être pour la fondation d'une résidence personnes âgées dans le quartier, le suivant le cimetière, et on aura tout gagné. Donc combien, alors ça c'est le combat que je mène depuis que j'étais au ministère, mais j'étais guère entendu, combien il nous faut sortir d'une politique de quartier pour fonder une politique de la ville, et combien j'aime dire que tous les plans banlieues sont un échec, parce que tous les plans banlieues
alors,
sont zonés.
Justement, j'allais vous poser la question, c'est vrai que vous êtes connu, enfin, pour ceux qui vous connaissent, hein. Pour votre leitmotiv, c'est justement le désenclavement. Vous l'avez dit, c'est une politique de la ville et pas une politique des banlieues. Je le disais en préparant l'émission, il y a eu donc le plan Marshall sous Sarkozy. Là, donc, il y a un nouveau plan qui a été lancé par le gouvernement qui s'appelle plan égalité et citoyenneté. En préparant l'émission, je voyais qu'il y avait 40 plans banlieues qui avaient été lancés depuis les années 60. Est-ce que tous ces plans, selon vous, vous qui suivez ça quand même d'un peu près, ils ont servi à rien ou est-ce que c'est très trop caricatural de dire ça?
Oui, non, c'est trop caricatural. Nos quartiers ne ressemblent en rien à certains ghettos dans d'autres pays du monde. La vie, les enfants vont à l'école, les parents sont aidés financièrement. On pourrait se dire si aucun plan n'avait été effectué, où on en serait. Donc je crois effectivement que la politique de la ville a développé des initiatives. Mais effectivement, vous savez, c'était le motif de la rupture, de mon départ du gouvernement, hein, quand il y a eu ce conflit entre Christine Boutin, ma ministre, et puis Fadela Amara. Nous étions pour un plan ville, elle était pour un plan banlieue.
Alors, Fadela Amara, il faut rappeler quelle était sa responsabilité à l'époque, donc c'était une ministre de Sarkozy.
Donc, elle était secrétaire d'État, hein, voilà. Et c'est vrai, quand est paru l'article « Je ne crois pas à un plan banlieue », bon, ça a été effectivement un clash. Mais je crois qu'aujourd'hui, les idées évoluent, mais combien effectivement il nous faut travailler à ce désenclavement, combien il nous faut travailler à permettre aux jeunes d'être scolarisés avec d'autres, que simplement les copains du quartier, combien il faut permettre à ces jeunes de partir en vacances avec d'autres que ceux du quartier. Je crois beaucoup à l'éducation, et je crois, hein, Jean-Louis Borloo le reconnaissait, que ce problème éducatif n'a pas été véritablement traité.
Alors, il y a encore beaucoup de questions, mais je relève le Premier ministre Manuel Valls a récemment tenu un discours, je crois que c'était en janvier 2015, où il parlait d'un apartheid territorial, social et ethnique en France. Comment vous avez réagi à cette déclaration qui a donné lieu après à ce plan égalité-citoyenneté? Est-ce que c'était par trop caricatural ou pas?
Oui, enfin moi je crois qu'il ne s'agit pas d'inventer des formules en reprenant des mots qui ont effectivement un sens trop fort. Enfin, dire on peut se promener dans ces quartiers, enfin n'allons pas faire croire à l'ensemble de la population. Et je crois que c'est renforcer le ghetto que de véhiculer une image, enfin je veux dire, trop forcée. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a un problème d'exclusion, c'est vrai qu'il y a un problème de ghettoisation, mais n'allons quand même pas employer des mots qui ne reflètent pas ce qui se passe dans notre République.
Alors, pour aller jusqu'au bout de la caricature, hein, c'est aussi le propos de ces émissions, parce que c'est vrai que vous avez l'habitude des banlieues, mais peut-être tout à chacun n'en a pas l'habitude, donc il peut y avoir des images assez fantasmées des banlieues. On a aussi un ministre de la Ville qui a déclaré récemment qu'il y avait des centaines de Molenbeek en France au moment des attentats que l'on connaît. Quel visage des banlieues vous nous donneriez à voir? Est-ce que ce sont des lieux de fête, comme le disent certains, des zones de non-droit? Mais on imagine qu'il n'y a pas que cela. Quel résumé vous donneriez des banlieues à nos auditeurs?
C'est quand même des lieux où il y a de véritables solidarités. Hein. La récente enquête menée auprès des collégiens montrait que tous se réjouissaient d'avoir des amis. Et je pense que ce sont des lieux, d'ailleurs, vous savez, au moment de la canicule, la proportion de décès dans les quartiers était bien plus faible que la moyenne nationale. C'est-à-dire qu'on parle de quartiers sensibles, c'est que lorsqu'il se passe quelque chose d'un peu grave, eh ben, il y a toute une effervescence. Alors que des fois, dans d'autres quartiers, le voisin peut mourir, on a vu encore ce petit gamin qui meurt dans l'indifférence générale des voisins. Donc là, je crois que ces quartiers sont véritablement marqués par cet esprit de solidarité, cette culture de l'entre-jeunes. Et il y a un côté assez positif. Le côté négatif, c'est qu'effectivement, dans cette culture d'entre-jeunes, elle devient de plus en plus prégnante. Hein. On voit une différence au niveau de la transmission du religieux. L'islam des jeunes n'a rien à voir avec l'islam des adultes.
C'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez par là?
C'est-à-dire que moi, je ne vois pas de jeunes qui se convertissent à l'islam suite à une interpellation d'une phrase du Coran commentée par un adulte. Je les vois qui se transmettent des codes de conduite, qui les font se reconnaître, et puis aussi parfois s'identifier en opposition à notre République. Donc, quand le Premier ministre, le ministre de la Ville, parlait de ces Molenbeek, ce à quoi il faut être attentif, c'est qu'effectivement, il y a ce risque de radicalisation contre la société. Vous savez, j'ai encore jamais rencontré un jeune jeunes musulmans croyants se radicaliser. Ceux que je rencontre sont des jeunes radicalisés qui vont s'islamiser. C'est-à-dire que quand on regarde le parcours de jeunes terroristes, avant de basculer dans l'islamisme, c'était absolument pas des jeunes croyants qui fréquentaient les mosquées, etc. Absolument pas. C'était des jeunes qui étaient dans les trafics, dans la drogue, dans l'alcool, dans le recel, etc. Et puis, qui se sont radicalisés ainsi contre la société française. Et après, dans un deuxième temps, voilà, il y a cette idéologie religieuse qui vient les happer. Alors, je crois effectivement que le ministre a raison de nous dire... Attention hein, à cette radicalisation de certains jeunes contre la société, parce que c'est un terreau propice ensuite à la réceptivité face à ces thèses de l'islamisme. Vous savez, me revient en tête cette phrase de Don Bosco lors de son voyage triomphal en France en 1883, « Ne tardez pas à vous occuper des jeunes, sinon ils ne vont pas tarder à s'occuper de vous ». Et combien je crois effectivement qu'il y a urgence aujourd'hui à permettre à chaque jeune, en partie de ces quartiers, eh bien, d'avoir une place dans notre société.
Récemment, à cette antenne, nous recevions Xavier Lemoine, qui est donc le maire de Montfermeil, où a été accueillie cette première école Espérance Banlieue, on y reviendra un peu plus tard, et qui est aussi le vice-président du Parti chrétien-démocrate. Et il disait la chose suivante à propos donc, de ces rénovations de quartier dont vous parliez au début, sur lesquelles vous aviez l'air un petit peu sceptique. C'est un grand programme national, ça s'appelle le PNRU, je vais y arriver, Programme National de Renouvellement Urbain. Il disait, malgré tout, tant qu'on n'a pas redonné aux gens... une certaine dignité, ou en tout cas le sentiment qu'ils peuvent avoir une certaine fierté à habiter les quartiers, tout le reste est difficile ou inutile. Est-ce que, malgré tout, vous partagez ce sentiment ?
Je partage en partie, hein. Bien sûr, je me réjouis de l'amélioration des villes et quartiers. Vous savez, j'ai été nommé par M. Borloo donc, au comité d'évaluation de l'ANRU. Et je croyais à ce projet. Au démarrage, l'ANRU consistait à dire on détruit des logements sociaux dégradés et on les reconstruit ailleurs et de manière à construire un autre type de logement dans les quartiers. C'était un plan fabuleux. Reconnaissons effectivement qu'il n'a pas entièrement donné satisfaction. Eh bien, pourquoi ? Eh bien, parce que bon nombre de communes ont préféré payer l'amende plutôt que construire du logement social. Et comme on s'était engagé dans le 1 pour 1, un logement social détruit égale un logement social reconstruit, on a reconstruit des logements sociaux dans les quartiers. Résultat des courses, il n'y a pas eu cette mixité de population. Dans nos grandes agglomérations, l'Île-de-France ou Lyonnaise, plus de 85% de la population du quartier a été relégée dans le quartier. Et c'est là où je dis... Ça va pas. Moi, j'étais un fan du projet ANRU. Mais on l'a développé dans sa dimension urbanistique, mais effectivement, on ne l'a pas développé dans la dimension qui devait l'accompagner, qui était celle, effectivement, de réintroduire de la mixité. Parce que je crois, effectivement, que la ville, eh bien, est composée de gens différents. C'est ça qui en fait la richesse. Et que cette géographie urbaine qu'on a créée à partir des années 70, consistant à rassembler les catégories socio-professionnelles entre elles, et en rassemblant toutes les populations défavorisées sur le plan économique dans des mêmes lieux, c'est cette politique de peuplement qui, à mes yeux, s'avère un véritable échec.
Jean-Marie Petitclerc, une dernière question. Lors des débats de la primaire, les banlieues se sont invitées, on va dire de manière un petit peu marginale, dans le débat des primaires des Républicains. Je vous le disais en introduction, je ne sais pas, est-ce que vous avez satisfait déjà des réponses qu'ont apportées les uns les autres ? On a en tête la réponse qu'a donnée François Fillon en disant, en fait, la première réponse au problème des quartiers, ça serait le problème de l'emploi, et après tout se résoudrait. Et puis, même question un peu qu'au début, qu'est-ce que vous auriez envie de dire en cette année présidentielle ? Toujours le même slogan, le désenclavement pour vous ?
Oui, et puis, ces gens, on a besoin de cette jeunesse, les atouts. Vous savez, c'était Emmanuel Macron qui disait l'ubérisation a été une chance d'accès à l'emploi de ces jeunes. Moi, je l'ai vu au moment des jeunes qui allaient louer une voiture, ils conduisent bien, et hop, ils deviennent chauffeurs. Et on a vu des tas d'emplois fleurir. Mais tout le pays s'est solidarisé vis-à-vis des avantages acquis des chauffeurs de taxi. Hein. C'est ça aussi, c'est-à-dire que je crois que la révolution du numérique va pouvoir être une chance d'accès à l'emploi parce qu'elle va effectivement changer un petit peu la donne et combien il est important que ces jeunes accèdent à l'emploi. En ce qui concerne la place des banlieues dans le débat des primaires, j'ai quand même trouvé très très faible, enfin je dirais très, et très marginal, par rapport à l'enjeu d'aujourd'hui. Je crois que c'est un enjeu sociétal important, reconnaissant quand même que ça a tourné autour de caricatures sur les portions de frites dans les cantines des écoles des quartiers, et que franchement, je pense que nos politiques ne sont pas du tout à la hauteur hein, des questions posées.
Et vous craignez qu'à l'occasion de cette campagne présidentielle qu'on annonce, on va dire, assez à droite, hein, pour faire... pour faire court, les banlieues ou l'intérêt qu'on peut porter aux banlieues soit passé à la trappe, soit au contraire, traité de manière caricaturale.
Vous savez, quand je regarde l'histoire de la politique de la ville, hein, en gros, depuis le début des années 90, des gouvernements de droite et des gouvernements de gauche se sont succédés, on ne peut pas dire que le gouvernement de gauche ait véritablement pris en compte le problème. Cette grande déception vis-à-vis de François Hollande, qui avait fait lors de sa campagne de 2012 un enjeu en disant que cette jeunesse des banlieues était une priorité, et on n'a quand même pas vu grand-chose venir. Donc voilà, moi je crois que ce qui est important, c'est d'attendre les mesures, mais je pense effectivement que ce débat gauche-droite, en tout cas quand on regarde du côté de la politique de la ville, n'est pas aussi tranché que cela.
Eh ben, merci beaucoup, Père Jean-Marie Petitclerc, d'avoir pris le temps d'être avec nous à l'antenne. Je donne le titre d'un de vos récents ouvrages, Don Bosco, toujours d'actualité, aux éditions Salvator, le Père Jean-Marie Petitclerc. Merci, on fait une pause, et puis après on se retrouve pour parler un petit peu plus longuement d'Espérance banlieue.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Ben, si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restant des jours. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme. Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Soucis de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur? Que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je passe la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de jour.
Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais.
Ce matin, donc, cette émission Les banlieues et leurs nouvelles écoles. Je vous rappelle que nous sommes avec en plateau Jean-Louis Bougny, qui est président d'Espérance banlieue Toulouse. Arnaud Desbazeilles, pardon, initiateur de ce projet à Toulouse, et Claire Sellerier, qui est enseignante et membre de ce projet, donc Espérance Banlieue à Toulouse, projet donc qui sera présenté d'ailleurs, il faut que je fasse cette annonce, lundi prochain à la salle O7 à Toulouse. On y reviendra un petit peu plus tard et je donnerai toutes les informations précises à la fin de cette émission. Et nous étions donc en début de partie avec le père Jean-Marie Petitclerc, auteur d'un ouvrage Don Bosco, toujours d'actualité. Et maintenant, nous sommes avec Albéric de Seran. Bonjour Albéric.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Voilà, donc vous êtes le directeur de la première école Espérance Banlieue qui a été fondée donc à Montfermeil, en région parisienne. Et on va parler avec vous donc de ces écoles. Je cite un autre bouquin au risque de perdre les auditeurs, mais cette fois il faut le retenir. Espérance Banlieue d'Harry Roselmack, et de Eric Mestralet, qui explique et qui détaille ces projets Espérance Banlieue. Je redonnerai les références à la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Albéric, pour commencer, en quelques mots, qu'est-ce que sont les écoles Espérance Banlieue, avant qu'on en parle plus longuement ?
Alors écoutez, ce sont en général des écoles qui répondent et qui souhaitent répondre au décrochage scolaire constaté dans d'autres écoles comme les écoles classiques, publiques et privées sous contrat. Mais attention, nous ne sommes pas une école qui... ce sont des écoles de sauveurs en concurrence avec des écoles qui ont un véritable engagement depuis déjà 10, 30, 40 ans dans nos banlieues. Au contraire, nous sommes une réponse à un besoin très pertinent qu'ils ont mis en valeur, qui est l'idée de la complémentarité. Donc les écoles Espérance Banlieue sont des outils de complémentarité et qui permettent un va-et-vient des enfants entre des écoles classiques et la nôtre.
C'est-à-dire des outils de complémentarité, en fait. Est-ce que vous pouvez préciser ? C'est-à-dire que ça serait quoi ? Ça serait des écoles adaptées à un certain type de public, dans des situations précises ?
La configuration en général, plus exactement le profil des enfants qui viennent dans notre école, souffre plus ou moins de deux ou trois phénomènes que sont les suivants, à savoir un manque de confiance en soi, un manque de méthodologie, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas travailler, ils ne savent pas comment travailler, et donc ils ont besoin d'un suivi, d'un accompagnement personnalisé, individuel ou par groupe, de façon à apprendre à se mettre au travail, parce que c'est une grande souffrance pour l'enfant qui ne sait pas travailler, et du coup il n'a plus confiance en lui. Et puis troisième élément, qui est quand même très courant et même très présent parmi les candidats pour des établissements, pour les écoles Espérance Banlieue, c'est des enfants victimes du grand fléau, la paresse. Donc la paresse, c'est quelque chose qui vraiment, bon, je le dis en riant, mais vous savez, c'est une grande souffrance pour les enfants, et surtout quand ils ont un manque de confiance en eux, ben, la paresse n'aide pas, et quand surtout il n'y a pas de méthodologie. Donc oui, le profil de nos écoles, ce sont des dispositifs de petit effectif qui permettent de répondre à ces besoins. Alors en banlieue, c'est pas le lieu où il y a un manque de méthodologie, un manque de confiance en soi et une vraie paresse aiguë. Dans tous les établissements, dans toutes les régions de France et dans tous les contextes de France rurale ou urbain, on rencontre ce même problème. Mais ce qui se passe, c'est qu'actuellement, les dispositifs n'étaient pas réellement présents sur le terrain de la banlieue. Et c'est pour ça qu'Espérance Banlieue, maintenant, se développe.
Alors, Espérance Banlieue se développe. Combien d'écoles maintenant en France ?
Alors, nous avons la joie d'avoir nos petites sœurs, puisque nous avons la fierté d'être la sœur aînée. Nous avons la joie d'avoir nos petites sœurs qui se sont donc développées en espace au cours de ces trois dernières années. Donc, nous sommes à 8 établissements existants actuellement, à savoir une à Marseille, une à Roubaix, deux autour de Lyon et Saint-Étienne. Nous en avons 4 à Paris, c'est-à-dire Mantes-la-Jolie, Sartrouville, Montfermeil et Asnières.
Et puis au moins une dizaine de projets, en tout cas c'est ce qu'on trouve sur votre site internet, à travers la France.
Voilà, voilà. Sans un optimisme délirant, au contraire, de manière très mesurée, nous pouvons déjà parler de presque 12 et même 14 établissements en projet.
Alors vous avez fait l'objet d'une couverture médiatique très importante, pas vous, mais ces écoles Espérance Banlieue. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui prend. Je le disais, donc Harry Roselmack, donc, qui est journaliste assez connu, a donc coécrit ce livre sur les écoles Espérance banlieue. Vous avez une méthode, enfin vue de loin, je le présentais comme ça ce matin, une méthode un peu choc, une méthode à l'ancienne, c'est-à-dire uniforme, levée de couleur et pédagogie scout. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer à gros traits cette méthode dite à l'ancienne ?
Alors voilà, on va dire dite à l'ancienne parce qu'en fait ce n'est pas complètement le cas. Nous prenons des outils qu'à travers à peu près une centaine d'années d'expérience scolaire en France, des outils qui ont été utilisés. Bien évidemment, le drapeau, l'uniforme sonne un peu le rétro et le vieillot, et je dirais même que la montée des couleurs sonne la Troisième République, si on commence à nous taquiner. Mais nous avons aussi le procédé du pressentir et de l'intuitif dans les connaissances, et ça, on pourrait nous accuser d'être 68ards, puisque ce sont des méthodes de travail que l'on va approfondir et surtout découvrir le bien dans les années 70 et 80. Donc nous avons fusionné la pertinence, nous avons fusionné des outils pédagogiques et éducatifs qui répondent à une pertinence spécifique, c'est-à-dire le besoin réel de l'enfant. Si l'enfant a besoin de comprendre qu'il est français, il faut qu'il palpe. Il faut qu'il palpe son identité. Il faut que son identité soit palpable. Qu'un enfant, il a besoin de toucher, il a besoin de comprendre. Et c'est un être incarné. Ce sont des personnes incarnées. Donc, quand on monte les couleurs, on n'est pas en train de monter les couleurs en disant « Ici, une école s'occupe des enfants de l'immigration ou des braves petits perdus de la banlieue. » Non. Le drapeau monte. Et donc fièrement en train de flotter sur le mât, parce que, comme avec la reine d'Angleterre, il dit que des Français sont dans la cour. Des Français sont en train de se préparer à être les adultes de demain en France. Et donc, c'est Français, c'est Mohamed, c'est Frédéric, c'est Thiago, c'est Rachid, et ces Français sont en train de grandir, et c'est pour ça que le drapeau est en train de flotter. Je vous donne une petite anecdote. On leur explique que le drapeau est quelque chose de très fort sur la symbolique. Et que, par exemple, un drapeau qui tombe par terre, c'était en général un drapeau d'un pays déchu. Donc, il ne faut pas qu'il touche le par terre, parce que notre pays est vivant. Et j'ai un enfant comme ça qui est couru complètement catastrophé en me disant « J'ai fait tomber le drapeau par terre, j'ai tué la France. » J'ai dit « Non, vous n'avez pas ce pouvoir, ne vous en faites pas. Vous n'avez pas tué la France. » Mais en tout cas, j'ai vu chez cet enfant qu'il avait compris ce que signifiait son drapeau français. Alors, par ailleurs, on le plie plutôt du côté bleu, vous voyez. Et depuis que notre président de la République a annoncé, juste raison, que nous étions en état de guerre contre le terrorisme, j'ai un enfant qui est arrivé avec le drapeau plié du côté rouge. Et il a dit, je l'ai plié du côté rouge, monsieur Ferrand, parce que on est en guerre, le président l'a dit. Vous savez, quand vous voyez un enfant qui arrive comme ça, à la suite de quelques initiations qu'on en a données avant, ça montre que c'est indispensable de prendre du temps et d'expliquer, comme on explique à nos propres enfants, les choses. Enfants n'attendent qu'une chose, c'est de matérialiser et de rendre pratique ce qu'on leur enseigne.
Le drapeau français, c'est symptomatique de quelque chose dans votre école. Pour le reste de la pédagogie, je disais uniforme, enseignement, on va dire matières de manière relativement traditionnelle. Les enseignants qui déjeunent avec les enfants, la pédagogie scout. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation peut-être plus globale ?
Alors, il est vrai que d'abord, nous nous sommes inspirés de tout ce qui se passe de manière générale sur l'Europe. Et nous avons essayé de prendre les outils qui toujours répondent à nos trois critères, c'est-à-dire académique, éducatif et intégratif. Et tout ça dans l'idée d'éveiller la personne humaine, hein, dans sa dignité, dans sa beauté, dans son identité. Donc, premièrement, nous programmons sur la semaine 5 matinées. Et ces matinées sont l'occasion pour nous d'aborder des matières générales, que ce soit dans le primaire comme dans le collège. Après, nous nous appuyons sur l'expérience anglo-saxonne de la petite gamelle et du temps de repas vraiment communautaire. C'est-à-dire que c'est un moment, nous avons deux journées obligatoires où tout le monde mange ensemble, le lundi et le vendredi, et ils mangent par équipe. Donc nous avons des petites équipes qui sont formées. Et sous inspiration de la pédagogie de Baden-Powell, donc du scoutisme, Et nous avons donc organisé ces équipes de façon à ce que les aînés qui sont en quatrième, en troisième, s'occupent même des petits CP mélangés avec des sixièmes, des CM1, des CM2. En général, on fait donc des équipes de garçons d'un côté et des équipes de filles parce que nous sommes tout à fait pour la mixité, mais il y a des certains moments où la mixité n'est pas une nécessité et même un besoin pédagogique. Je crois profondément en l'importance du poids de la mixité dans nos écoles, particulièrement dans le contexte de nos quartiers pluriculturels. Il faut comprendre comment, dans notre culture occidentale, la mixité et l'égalité de l'homme et de la femme sont parfaitement saisies et équilibrées. Par ailleurs, autour de ce repas, eh bien, chacun amène la petite gamelle. C'est pas parce qu'on veut se débarrasser des problèmes de menu halal ou de menu kasher ou de menu classique avec le porc. C'est parce que tout simplement, ça nous donne la possibilité, d'abord sur le plan de la gratuité, c'est-à-dire enfin de l'économie, pardon. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est plus économique. Et puis surtout, ça donne la possibilité aussi aux enfants de montrer de se montrer dans aussi leur histoire familiale. Il est clair qu'un petit garçon d'origine bretonne qui arrive avec une galette aux andouilles, eh bien, va expliquer un peu l'histoire de ce plat. Et puis, face à un petit Rachid qui lui présentera le couscous. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très riche, de très beau. Et chacun déjeune ensemble en s'acceptant dans sa différence et même dans ses règles alimentaires. Et puis l'après-midi, c'est plutôt un temps individuel, un temps de restitution, un temps de méthodologie, un temps que l'on va passer avec son professeur référent qui prend soin de l'enfant et du groupe pour qu'il puisse grandir dans une expérience de travail personnalisée. Ce qui est fondamental, c'est de pouvoir permettre à l'enfant de se structurer et de trouver une confiance en lui. Il a un trésor en lui, il l'ignore et parfois le rejette parce qu'il en a peur. Et donc, nous, on lui permet, on lui donne l'occasion, dans un contexte de petit effectif, et avec des professeurs qui sont à la fois éducateurs et enseignants, parce que c'est ça la particularité de cette mission professionnelle du professeur, eh bien, nous allons permettre à l'enfant de s'éveiller et de se réveiller.
Alors, il y a une chose qu'il faut, peut-être on peut donner la parole à quelqu'un d'autre, Jean-Louis Bouny, ou alors vous, Arnaud Desbazeilles, une chose importante, ces écoles sont aconfessionnelles. Voilà, on est sur une radio chrétienne, on parle de votre projet, mais ce ne sont pas des écoles catholiques hors contrat. Est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus, Jean-Louis Bouny ?
C'est essentiel, c'est-à-dire que ces enfants, ils sont pris là où ils sont, avec leur histoire familiale, personnel, avec leur culture. Et c'est de l'enrichissement du corps enseignant et des élèves entre eux. Donc, le fait religieux n'est pas un fait interdit dans ces écoles. Au contraire, ça sera un sujet qui sera abordé.
C'est un sujet qui est déjà abordé dans les écoles qui existent déjà.
Absolument. Mais justement, sans crispation, pour développer toute une approche autour de la connaissance respective et surtout de la raison. On n'est pas là pour parler de foi, on est là pour parler de leur culture, de leur pratique, et à partir de là, mieux se comprendre, mieux s'accepter, et donc à terme, c'est le pari que font ces écoles, mieux s'intégrer.
Albéric de Seran, c'est important comme précision, comment le vivent les enfants, cette laïcité détendue ?
Oui, vous pouvez l'appeler comme laïcité détendue. Moi, je rejoins exactement mes chers collègues de Toulouse. Nous sommes dans une école, donc c'est l'apprentissage, c'est la compréhension, c'est l'assimilation du contexte dans lequel s'est construit et s'est mis en place la laïcité. Donc, nous aurions très bien pu nous nommer école laïque. Nous l'avons pas fait parce que nous considérons qu'il est essentiel et important pour des enfants d'avoir une étape intermédiaire. On n'impose pas une réalité dans un contexte aussi complexe qui est notamment celui de nos frères musulmans qui, ne l'oublions pas, ont parfois justement cette donne une importance de la religion comme le point fondamental identitaire. Donc il faut harmoniser les choses, désamorcer les peurs et les craintes. Et pour cela, eh bien, la pédagogie de la confessionnelle me semble être une très bonne marge, d'autant plus que, n'oublions pas, nous parlons d'établissements primaires et collèges. Donc, on est dans les fondamentaux. Donc, c'est exactement le moment où il faut effectivement, tout doucement, expliquer le contexte dans lequel chacun nous vivons, c'est-à-dire notre contexte français, la République française et les laïcités. Et puis c'est un vrai travail de formation et d'initiation. Nous éveillons ce sens de la pluralité dans un point commun qui est quand même une société occidentale qui est marquée par la culture judéo-chrétienne.
Albéric de Seran, pour finir, c'est vrai que les écoles Espérance banlieue, et puis on verra pour Toulouse, donc après cette deuxième pause musicale, c'est une success story, mais on imagine que c'est pas non plus sans peine ni sans difficulté, et on peut avoir de loin, entre autres parce que vous êtes à raison bon en communication, le quotidien est probablement pas si facile que ça. Je sais pas, l'envers du décor, c'est quoi? On imagine que c'est pas si simple de créer ces écoles et de faire le travail que vous faites.
Espérance banlieue propose deux livres. Donc vous en avez parlé de notre livre phare et pionnier qui est donc Espérance banlieue de Éric Mestrallet et Harry. Il y en a un autre qui décrit et qui répond à votre question et à votre remarque, c'est « Je veux faire battre le cœur de l'école », co-écrit avec Émilie et moi-même.
J'allais le citer, rassurez-vous.
Voilà, aux éditions La Thèse. Et c'est, bon, là, je ne fais pas une pub, mais c'est pour vous dire que nous avons bien entendu, effectivement, que dans notre effort de communication, il nous fallait aussi rester très concret sur le terrain. Et ça a été justement notre désir à travers ces deux ouvrages de montrer à la fois notre réflexion pleine d'espérance et sur le besoin sociétaire qui nécessite l'existence des écoles Espérance banlieue comme un outil de complémentarité, mais également les difficultés devant lesquelles nous nous présentons. Nous ne répondons pas dans sa totalité à tous les besoins. Nous répondons à un besoin qui est un manque de méthodologie, une vraie force de la paresse qui handicape l'enfant et un vrai manque de confiance chez l'enfant. Nous ne répondons pas à l'indiscipline ou à des comportements radicaux très difficiles sur le plan disciplinaire. Hein, vous voyez, Pierre Petitclerc a dû très certainement vous présenter aussi dans sa globalité ce contexte de la banlieue. Donc, nous avons humblement notre place. Nous ne voulons pas laisser sous-entendre que nous allons répondre à toutes les difficultés. Donc, effectivement, il nous arrive d'être face à des problèmes disciplinaires d'enfants. Et c'est là où il y a une tradition Espérance banlieue qui est en train de se mettre en place. Nous ne lâcherons jamais un enfant. C'est-à-dire que si cet enfant ne doit pas rester dans notre école, le directeur s'implique et s'engage à trouver avec les parents l'orientation nécessaire avant le départ de l'enfant. Du coup, l'enfant n'est pas abandonné, hein, il n'est pas renvoyé. Bien sûr, vous pouvez, pour des raisons disciplinaires et un manque de dialogue avec les parents, inévitablement avoir ce qu'on appelle des tristes exclusions sèches, c'est-à-dire on s'occupe de rien après et on met dehors l'enfant, mais elles sont très rares dans notre établissement. Nous avons orienté énormément d'enfants et nous avons eu cette possibilité, mais cela nécessite effectivement une patience de notre part. Et puis, je crois qu'il faut, c'est là où c'est important, sur les ondes, de bien dire aux jeunes qui souhaiteraient rejoindre la mission professionnelle d'Espérance banlieue, que ça ne s'improvise pas. C'est un métier qui ne s'improvise pas. Et on se retrouve devant des cas qui sont difficiles, des cas qui demandent d'être éveillés, des enfants qui demandent d'être vraiment structurés, mis en confiance et éveillés. Et cela ne s'improvise pas. Donc c'est pour ça que d'ailleurs c'est apprécié, parce que les professeurs ont cette compétence.
Merci beaucoup Albéric de Seran. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, « Je veux faire battre le cœur de l'école » aux éditions Lattès. Et je ferai un récap sur tous les livres à la fin de l'émission, parce que c'est vrai que j'en ai cité beaucoup. Merci beaucoup, on fait une deuxième pause et puis après on va parler du projet de Toulouse.
Un ange est tombé, un autre passe, une page est tournée, même si rien ne s'efface. Quelle est ta blessure? Où est la mienne? Y a-t-il des douleurs qu'on mesure qui s'apprennent? Alors laissons aller. Je vis, je crie, je pleure, j'oublie, je marche, je danse, je tombe et j'avance. Et j'ai le même sang que toi. Je perds, je doute, je parle, j'écoute, je crois, je change, je plais ou je dérange. Et j'ai le même sang que toi. Les mêmes questions, les mêmes doutes, un seul horizon. Alors laissons aller. Je vis, je crie, je pleure, j'oublie, je marche, je danse, je tombe et j'avance. Et j'ai le même sang que toi. Je perds, je doute, je parle, j'écoute, je crois, je change, je plais ou je dérange. Et j'ai le même sang.
Présence à Millau 106.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, cette émission donc sur les banlieues et leurs nouvelles écoles. Et si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle que nous étions avec le père Jean-Marie Petitclerc, grand spécialiste des banlieues au début de cette émission. Albéric de Seran, juste avant cette pause musicale. Premier directeur, on va dire, d'une école Espérance banlieue en région parisienne à Montfermeil, auteur d'un ouvrage « Je veux faire battre le cœur de l'école » aux éditions Lattès. Et autour du plateau, Jean-Louis Bouny, président d'Espérance banlieue Toulouse, Arnaud Desbazeil, qui est initiateur de ce projet, et Claire Célérier, enseignante et qui a rejoint ce même projet. Alors, à Toulouse, donc, on a vu, enfin, très rapidement, le contexte actuel, en tout cas la nécessité de, probablement, de créer ce type d'école, et une illustration avec Albéric de Seran. Et vous, donc, Arnaud Desbazeil, vous avez décidé de vous lancer dans le développement de ce projet à Toulouse. C'était pas votre métier à l'origine. Peut-être que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie et puis pourquoi vous avez décidé de vous lancer là-dedans.
Donc bonjour à tous. Donc moi effectivement j'ai fait une école de commerce il y a une quinzaine d'années maintenant et je travaille dans le conseil aux entreprises. Je grandissais tranquillement dans cette carrière, mais j'avais un sentiment d'insatisfaction. Il me manquait quelque chose. J'avais pensé à des engagements de type Fidesco, mais on n'avait pas pu partir. Donc,
c'est une ONG pour partir à l'étranger volontariat.
En volontariat, exactement. Mais on n'avait pas pu partir, notamment en raison de l'âge de nos enfants. Et Espérance banlieue, en fait, la rencontre se fait il y a environ un an, parce que je cherche, comme tous les ans, un cadeau à offrir à ma femme. Et cette année-là, en fait, elle prépare un concours pour être professeur. Et je repense à une expérience dont m'ont parlé mes parents, qui sont bienveillants dans une école Espérance banlieue, et qui m'ont dit que c'était un engagement vraiment extraordinaire. Et je me dis, je vais offrir à ma femme pour Noël le livre Espérance banlieue. elle le commence.
Donc ce livre que j'ai cité tout à l'heure avec Harry Roselma, qui est donc Eric Mestralet, qui est donc le grand chef des écoles Espérance banlieue.
Exactement. Donc elle commence ce livre, donc je l'entends à côté de moi me commenter à haute voix en disant c'est génial, c'est extraordinaire. Et puis à un moment elle s'arrête dans sa lecture et elle me le tend et elle me dit tiens c'est pour toi. Donc suivant toujours les conseils de ma femme, je démarre la lecture et je finis le livre en quelques heures. Et effectivement, à la fin, je me dis, bah oui, ça c'est pour moi.
Qu'est-ce qui vous a parlé dans ce projet, en fait ? Qu'est-ce qui vous a parlé au cœur ? Est-ce que vous connaissiez les banlieues ou pas du tout ?
Uniquement en tant que, on va dire, spectateur de la vie de mon pays. Avec le sentiment profond qu'il y avait une déchirure qui se créait dans notre pays. Comme l'a très bien dit précédemment le père Petitclerc, une forme de ghettoisation, des poches finalement de notre pays qui était en dehors de notre société. Et je me suis dit, moi j'ai quelque chose à faire là-dedans. J'ai repensé à pas mal d'années de scoutisme où j'avais été en contact d'enfants. Et je me suis dit, j'ai quelque chose à faire dans cette expérience. Donc, à partir de là, je suis allé voir des écoles, les écoles qui sont en région parisienne. Donc, j'ai eu la joie de découvrir Albéric de Séran à ce moment-là. Et ce qui frappe quand on arrive dans une école Espérance banlieue, c'est la joie des enfants. Dans la cour de récréation, on les sent épanouis, on les sent fiers, on les sent respectueux aussi. Tout visiteur qui découvre une école Espérance banlieue est frappé par la gentillesse et le respect des enfants qui viennent tous vous saluer. Alors mon papa fait du bricolage lui à l'école Espérance banlieue d'Asnières. Et à chaque fois, voilà, exactement. À chaque fois qu'il a besoin d'une petite aide pour son bricolage, il a toujours une quinzaine d'enfants autour de lui qui veulent absolument porter un pinceau ou le pot de peinture. Et c'est vrai que ça casse complètement l'image qu'on peut avoir de ces enfants et ces jeunes de banlieue qui sont en fait, quand on leur parle. Quand on est là pour eux, pour les faire grandir, qui sont des enfants adorables.
Alors, rapidement, Claire Sellerier, donc vous avez rejoint ce projet, vous êtes enseignante, et vous nous disiez en préparant cette émission que vous avez une expérience à l'étranger d'enseignement, entre autres en Angleterre. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet quant à ces méthodes éducatives un peu originales ?
Avant de partir en Angleterre, j'ai enseigné dans des écoles primaires publiques de la région parisienne et j'ai eu le sentiment d'un très grand gâchis par rapport aux moyens qu'on pouvait mettre en œuvre pour récupérer des enfants malheureux dans la classe. On manquait de temps, on manquait de moments plus privatifs pour s'occuper des problèmes de méthodologie, des problèmes, comme dit Albéric de Séran, de paresse peut-être et de manque de confiance. L'école nous propose des classes de 30 et pour moi, un effectif plus petit fait partie de la solution. Lorsque je suis partie en Angleterre, j'ai enseigné dans des établissements privés et autonomes. L'Angleterre vient de connaître un grand développement des charter schools ou des free schools, établissements très libres dans leur choix et dans leur programme, dans leur choix de recrutement des enseignants.
Voilà, parce qu'il faut le dire, là, ce sont des écoles qui ont, en tout cas les écoles Espérance banlieue, où vous faites le choix complet du recrutement des enseignants, ce qui n'est pas rien. Hein. Allez-y, continuez.
Absolument. Dans le choix des priorités qu'on donne dans les programmes par rapport aux besoins des enfants dans certains territoires, dans certaines zones, etc. Un autre aspect intéressant des écoles anglaises, c'est la création d'un sentiment de corps, d'un sentiment d'appartenance à travers quelque chose qui existe en France mais qui n'est pas toujours utilisé de façon récurrente, c'est les assemblées quotidiennes ou hebdomadaires de toute l'école pour écouter le topo du directeur ou des enseignants ou d'une équipe d'élèves qui souhaitent célébrer un événement particulier, une réussite, ou bien demander un effort, ou parfois se mettre en colère contre des comportements inadéquats ou inappropriés dans la cour de récréation.
Voilà, chose qu'ils font dans ces écoles Espérance banlieue, puisque en général, ils les réunissent dans la cour, je crois, plusieurs fois par semaine. Mmh. Et puis, ils récapitulent un petit peu tout ce qui a été vécu pendant la journée ou pendant la semaine. Pour finir, Jean-Louis Bounier, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes de ce projet ? Il y a donc une conférence qui est donnée donc, à Toulouse pour présenter ce projet Espérance banlieue, donc à 20h30, salle 7 à Toulouse, lundi 5 décembre prochain. Je sais pas, à gros traits, donc vous espérez ouvrir en septembre prochain, où est-ce que vous en êtes et puis de quoi vous avez besoin?
Voilà, alors pour arriver à ce premier objectif d'une première classe de primaire à la rentrée 2017, il fallait tout d'abord constituer une petite équipe. Donc grâce à la perspicacité et l'entre-Jean d'Arnaud, il a réuni beaucoup de bonne volonté de tous âges et nous avons constitué tout d'abord, une association.
Alors, nous donnez peut-être pas le détail, c'est-à-dire où,
tout à fait.
À gros traits, où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui vous reste
novembre,
comme étape.
On a maintenant une association active, reconnue d'utilité publique, et c'est pour ça que nous allons commencer une première grande séance, du moins, nous l'espérons la plus grande possible, le 5 décembre, pour faire connaître le projet dans le milieu toulousain, faire adhérer le maximum de personnes qui, par leur contribution, par leur don, vont soutenir le projet, par leur bonne volonté, parce qu'on aura besoin également de beaucoup de bienveillance. Nous avons ensuite entrepris des démarches dans les banlieues pour connaître un peu les réseaux, les besoins. Nous avons rendez-vous déjà avec la mairie pour la mairie de Toulouse pour identifier les lieux possibles où la mairie pourrait nous soutenir pour s'installer. Et donc la démarche maintenant est enclenchée. Il faut que en mars prochain nous soyons à même d'avoir identifié le lieu, préparer le lieu pour qu'il soit disponible à la rentrée, recruter le corps professoral, du directeur au professeur. Donc c'est très ambitieux pour les quelques mois qui arrivent, mais on ne doute pas que les bonnes volontés se manifesteront rapidement parce que on y croit beaucoup.
Voilà, en tout cas, rendez-vous est donné donc lundi 5 décembre prochain à 20h30, salle 7 à Toulouse. Je rappelle le titre de deux ouvrages qui ont été cités. Ouvrage écrit donc par Albéric de Serang, Je veux faire battre le cœur de l'école aux éditions Lattès, et Espérance banlieue avec Harry Roselmack et Eric Mestralé aux éditions du Rocher. Merci beaucoup à nos invités d'être venus nous parler des banlieues, soit par téléphone, soit physiquement ici en plateau. Merci beaucoup et longue vie à Espérance banlieue. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.